Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Salutations de la communauté de Flémal, dont nous sommes les modestes représentants. Alors le thème qui m'a été confié ce matin, faire de l'Église une équipe gagnante, mérite un long enseignement. Voilà, on va essayer d'être le plus concis possible. Mais je sais une chose, c'est que quand nos cœurs ne sont pas libres, quand ils ne sont pas en paix, il est compliqué de suivre un enseignement. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il est important ce matin que nous ayons la paix dans le cœur, le repos de l'âme. Et j'ai envie de prier pour que nous ayons ce repos de l'âme. Si nous ne sommes pas reposés, nous avons difficile d'entendre et de comprendre, de saisir les instructions que le Seigneur désire donner à son Église. C'est le Seigneur Jésus qui a dit, « Moi, tout ce que j'ai, c'est mon Père qui me l'a donné. » Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Je crois que la paix du cœur, c'est d'abord la connaissance du Père, et c'est la connaissance du Fils. Avez-vous cette connaissance du Père? Avez-vous la connaissance du Fils? Parce que juste après, Jésus dira, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, parce que je suis doux et humble de cœur. » À ce moment-là, vous connaîtrez la paix dans votre cœur. Vous recevrez la paix du cœur. C'est cette paix que j'aimerais que nous puissions ensemble recevoir. Et... Merci. Non, ça va aller, je pense que nous puissions recevoir cette paix ensemble. On va prier, si vous voulez bien. On va courber la tête. Fermez les yeux. Ce matin, y a-t-il parmi nous des personnes qui manifestement n'ont pas la paix de Dieu en eux? Éventuellement même, vous pouvez vous approcher un instant. Si en vous, il n'y a pas la paix du Seigneur, si vous ne ressentez pas cette joie intérieure, qui est la conséquence de la réconciliation avec notre Seigneur, eh bien, venez un instant devant, on va prier ensemble. Parce qu'il est important que nous ayons la paix avant de recevoir l'instruction. D'ailleurs, la paix, nous dit Jésus, est communiquée par l'instruction que nous recevons. Si nous mettons en pratique l'instruction de Jésus, alors il nous dit que nous recevons cette paix. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Parce que nous sommes là au bénéfice, Seigneur, seulement de ta grâce. Nous n'avons rien reçu de ce monde, tout ce que nous avons, c'est de toi que nous avons reçu. Et merci, Seigneur, parce que tu prends soin et tu t'occupes de ceux qui sont fatigués et de ceux qui sont chargés. Tu connais ceux, celles, qui ce matin ont cette charge lourde sur les épaules. Mais tu dis, prenez mon joug sur vous. C'est vrai, Seigneur, que ton joug n'est pas dur. Au contraire, il est léger, ton fardeau. Mais tu nous invites, Seigneur, à recevoir tes instructions et à les vivre, à les mettre en pratique. Merci, Seigneur, pour la paix que tu donnes ce matin. Tu nous l'as promise et nous la recevons. Nous en bénéficions, Seigneur, parce que tu nous l'as accordée au travers de ton sacrifice. Donne la paix ce matin à mon frère, à ma sœur, à gauche, à droite, à un enfant, à un adulte, à un adolescent, peu importe. Mais Seigneur, tu donnes la paix à chacun d'entre nous ce matin. Nous voulons non seulement, Seigneur, la recevoir par la foi, mais sentir en nous cette paix, sentir en nous cette joie, cette onction particulière que tu veux déverser sur ton Église ce matin. Nous le recevons parce que tu es doux et humble de cœur. Merci Jésus. La paix qui surpasse toute intelligence, nous la recevons. Merci pour tes instructions ce matin. Conduis-nous. Conduis-nous, Jésus. Amen. Merci Seigneur. C'est un thème qui est compliqué, c'est vrai, mais qui nous engage tous. Faire de l'Église. Je n'ai même pas besoin du micro d'ailleurs, donc je peux me reculer. Je bouge beaucoup, hein, donc je vais quand même me distancer parfois du micro, mais j'ai une voix qui porte. D'accord, vous m'entendez? Ah oui, je peux prendre le micro, mais bien, Pascal. J'ai une intelligence assez limitée. Alors, on y va. On va rentrer directement dans le thème, sans aucune présomption. Hein, ne soyons pas présomptueux, parce que qui est suffisant que pour parler d'une communauté gagnante, d'une église gagnante. Vous savez, on est sur le terrain, je suis sur le terrain comme vous. Et c'est en toute modestie que j'aimerais simplement vous partager quelques points que l'on peut trouver dans la Bible, dans la parole, et qui nous parlent aussi de cette capacité de construire une équipe qui a du succès dans ses entreprises, qui réussit, qui est gagnante. Nous savons une chose, c'est que Jésus-Christ est venu sur la terre, nous le savons, n'est-ce pas, pour sauver l'homme qui est pécheur et qui est perdu. Jésus-Christ est venu afin de pouvoir réconcilier l'homme avec son Dieu, avec son Père. Et il savait une chose, c'est que lui seul était habilité à faire cette œuvre de salut. Personne d'autre que lui n'a pu, ne pouvait ou ne pourrait le faire. Personne d'autre. Seul Jésus était apte à sauver l'humanité. Nous le savons, n'est-ce pas? Mais ce que Jésus savait, c'est que dans son humanité, il était limité. Limité dans le temps. Son ministère a pris quelques 3 ans et demi approximativement. Son ministère, il l'a limité aussi géographiquement à l'État d'Israël à l'époque. Bon, il a fait quelques incursions un peu dans les territoires voisins d'Israël. Mais c'est dans un temps limité, dans un espace limité qu'il a exercé son ministère. Et c'est la raison pour laquelle il savait qu'il aurait besoin autour de lui d'une équipe. Et c'est de cette équipe dont j'aimerais vous parler, si vous voulez bien. Et moi, ce sera la base du message. Et pendant les 3 années de son ministère sur la terre, eh bien, il va les consacrer à développer une stratégie qui va consister à construire, à édifier cette petite équipe de manière efficace. Et toute cette entreprise, eh bien, est relatée dans les évangiles qui retracent la vie de Jésus. Et c'est Marc qui a, je pense, le mieux condensé en quelques versets l'œuvre de Jésus au milieu de ses disciples. La construction de cette équipe gagnante, dont Jésus était le chef, eh bien, est quelque part résumée en 2 versets, je pense, dans l'évangile de Marc. Et nous allons lire ensemble ce condensé de l'essentiel du travail de formation de Jésus. C'est dans Marc, au chapitre 3. Et on va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Mais il y a surtout 2 versets qui nous importent. Il dit ceci. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Alors voici les 12 qu'il établit. Simon, qu'il nomma Pierre. Jacques, le fils de Zébédée. Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanergès, qui signifie le fils de tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Alors voilà, d'abord on va se rassurer de la meilleure manière possible, c'est que 12 ont suffi à révolutionner le monde. Nous sommes plus que 12. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Alors avant de pouvoir, si vous voulez bien, vous parler des 2 thèmes essentiels que l'on trouve dans cette péricope, dans cette série de versets en quelque sorte, eh bien, j'aimerais faire une remarque. Quant au choix des disciples, le choix de cette équipe, ils étaient nombreux à suivre Jésus et pourtant, à un moment donné, Jésus ressent le besoin de se rendre sur cette montagne pour prier afin que le Père lui confie les 12. Comprenez bien que ce n'est pas Jésus qui choisit les 12, mais c'est son Père qui lui impose les 12. C'est important au niveau du choix. Et peut-être nous aurions choisi d'autres disciples que ceux qui nous sont relatés ici. Cependant, Jésus, lui, il fait entièrement confiance à son Père et au Saint-Esprit qui est capable de changer, de transformer ces hommes. Tu sais, quand on considère les personnalités, les caractères de ces hommes, ben, ce n'était pas gagné, hein. D'ailleurs, Marc nous donne un peu quelques éléments. Il dit que Simon, ben, inévitablement, il sera appelé Pierre. Donc ça veut dire qu'il y a eu un changement au niveau de son caractère. Il parlera aussi de Jacques et de Jean, les fils du tonnerre. Bon, c'était des gens, c'était des frères impétueux, ces deux-là. Ils avaient besoin aussi d'être transformés. Ce n'était pas évident de les avoir dans son équipe. De même que Pierre. Et puis il y avait aussi Simon, ce révolutionnaire, ce zélote, ce cananite en quelque sorte. Et sans compter Judas qui allait trahir Jésus. Donc on voit que c'était une équipe dont le matériau était de l'argile à l'état brut. Hein, c'est vraiment comme ça qu'on peut le dire. Ils sont tels qu'ils sont, avec leur arrière-plan, leur vêtu, leur caractère, leurs objectifs personnels qui étaient fort divers et pas toujours adaptés à ceux du Christ d'ailleurs. Cela nous montre une chose, c'est que Jésus ne choisit pas dans l'équipe des gens qui sont performants à la base. Ce n'est pas ceux que nous aurions choisis. Et très probablement que dans la communauté, dans l'église locale, ben, ce n'est pas le pasteur qui choisit les personnes avec qui il va servir, loin de là. Au contraire, la plupart du temps, nous sommes là ensemble, un peu comme dans une famille, nous n'avons pas choisi notre famille de naissance. De même, nous n'avons pas choisi spécialement notre famille de naissance spirituelle, mais c'est là que le Seigneur nous place, tout comme il a imposé à Jésus ses 12, qui en quelque sorte étaient comme le modèle réduit, le prototype de ce que devait être l'Église. Une équipe choisie par Dieu le Père, une équipe aimée, envoyée par Dieu le Fils, et une équipe aussi transformée à l'image de Jésus par Dieu, le Saint-Esprit. Alors c'est un vrai défi de la part de Dieu que de se choisir comme cela des hommes, des femmes, disparates, inconsistants, pour en faire un groupe uni, une église unie, et qui plus est performante en plus, puisque c'est de cela dont il est question aujourd'hui, une équipe qui est gagnante. Et vous savez qu'en cela, Dieu se glorifie. Dieu se glorifie du choix de gens, de personnes, parfois sans horizon, sans consistance, mais que le Saint-Esprit travaille pour en faire des hommes et des femmes qui le serviront. Dieu se glorifie au travers de cela. Il redonne de la dignité à ceux qui n'en avaient pas, à celles qu'il avait perdues. Et Jésus a confiance dans le Père. Il sait que ses 12, il saura les travailler. C'est véritablement une entreprise, je dirais même que c'est un miracle, que la mise en chantier, que la construction d'une communauté. Mais c'est un autre miracle encore que de consolider cette communauté. C'est toute une série de miracles que de permettre à une communauté de vivre, de subsister, de demeurer, de persévérer. Il y a d'ailleurs un verset qui m'a toujours interpellé et que j'aime méditer régulièrement, c'est celui du Proverbe 24 qui dit ceci: « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit, et c'est par la science, par le savoir-faire, que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Et cela peut constituer la naissance, le développement même d'un couple. C'est parfois un message que je prends, un texte que je prends pour des mariages. Construire sa vie, construire une église par la sagesse au niveau des fondations, par l'intelligence dans les murs que l'on construit, que l'on s'édifie, et puis du savoir-faire pour pouvoir décorer et amener tout ce qu'il faut à l'intérieur. Deux choses essentielles. Il y a deux objectifs essentiel que Jésus se donne pour réussir l'entreprise dans cette équipe. pour les avoir constamment avec lui, okay, pour les envoyer annoncer l'évangile, les envoyer prêcher avec la puissance de chasser les démons. Pour les avoir constamment avec lui, Jésus crée une atmosphère relationnelle qui est optimale, que j'appellerai la communication. Je vais vous en parler tout à l'heure. Et l'autre point essentiel, c'est le but, l'objectif qui est commun. Jésus a un objectif qu'il va transmettre à ses disciples, et c'est cet objectif commun qui va leur permettre de réussir. Accompagné également de ce premier but, les avoir constamment avec lui. Alors j'aimerais, si vous voulez bien, commencer par le second, ce qui nous entraînera automatiquement à considérer le premier de ces buts. Retenez bien, ces deux points sont essentiels. L'objectif commun et la communication sont les deux points essentiels si l'on veut réussir une équipe, dans une équipe. Et qui plus est, bien sûr, une communauté, telle que la vôtre et telle que la nôtre. L'objectif commun, d'abord. Important de se dire que, ben ça, c'est une question logique, si vous ne savez pas où vous allez, vous n'irez nulle part. D'accord ? Donc c'est important de savoir quel est l'objectif que nous désirons atteindre. Même la parole de Dieu dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Dieu a tout créé pour une raison, pour un objectif qui est précis. De la même manière, toute équipe se doit de connaître le but à atteindre, la destination finale. Mais pas seulement connaître la destination finale, mais aussi quel est le chemin qu'il nous faut emprunter pour atteindre cette destination finale. Cela signifie qu'il nous faut continuellement préciser l'objectif à atteindre et permettre à un maximum de pouvoir adhérer à ce projet, adhérer à la vision. Il s'agit de convaincre sur le bien fondé de l'orientation que l'on prend et qui est à donner. Alors nous savons, nous, en tant que chrétiens, bien sûr, nous ne sommes pas une équipe sportive, nous ne sommes pas une entreprise ici, hein. Vous savez, les thèmes, les objectifs qui sont apportés dans toute entreprise, les moyens stratégiques, les moyens utilisés dans le leadership, entre autres, dans le management, bien tout cela, eh bien, c'est tout à fait valable. Mais nous ne sommes pas, nous, une entreprise, donc nous n'allons pas utiliser exactement les mêmes critères. Cependant, il y en a certains qui sont valables tant pour l'entreprise que pour l'équipe sportive, que pour l'Église aussi. Mais nous, en tant que communauté, Jésus a donné le but essentiel et ultime. L'établissement, la croissance, l'extension du royaume de Dieu sur la terre. Voilà l'objectif final de la communauté que nous sommes. Permettre à ce que le royaume de Dieu soit étendu sur toute la terre. D'ailleurs, ce projet, Jésus l'a clairement stipulé à la fin de sa carrière, lorsqu'il a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples, vous savez, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Et si vous faites cela, il dira, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Jésus ne faisait que suivre le schéma que le Père avait déjà donné à la création, lorsqu'il a dit au premier, eh bien, multipliez-vous et remplissez la terre. Et lorsque plus tard il dira même à la nation d'Israël, je vous ai choisi pour que vous soyez un peuple saint et que vous puissiez répandre la connaissance de Yahweh, YHWH, le nom qu'on ne peut pas prononcer, mais que je prononce quand même aujourd'hui, par la grâce de Jésus, Yahweh. Vous devez propager le nom de Dieu et la sainteté de Dieu, propager-le au monde. Et Jésus ne fait donc que reprendre le plan initial de son Père. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Pour dire en un mot, commençant, il parle d'évangéliser. Pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. C'est ce que Marc nous dit. Alors nous avons l'objectif, Seigneur, la croissance et le développement du royaume de Dieu, Nous avons le chemin aussi à emprunter qui est l'évangélisation. Mais comment faire cela au niveau local? Avons-nous un exemple dans la Bible qui nous montre la manière dont nous devons évangéliser? Alors on va prendre ensemble, si vous voulez bien, un texte qui nous parle de la première Église. Comment faisait-elle? Acte 2, verset 41. On va le lire ensemble. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc la caractéristique de cette communauté, c'est qu'il y a des conversions et il y a des baptêmes aussi. Verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. On remarque un attachement à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les diverses prières, parce qu'il y a plusieurs manières de prière, il y a plusieurs types de prières, et puis aussi le culte au travers du partage du pain, du vin. Verset 43, la crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Un témoignage est rendu, et puis des signes, des prodiges, des miracles ont lieu aussi dans cette communauté. Verset 44, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. On nous parle là d'une vie communautaire très soudée, n'est-ce pas? Ils avaient tout en commun. 45, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils ont partagé le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Le partage des biens, l'équilibre social, communautaire, un partage des biens pour que tous soient heureux et se sentent bien dans cette communauté. Verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Joie, simplicité, amour mutuel. Et en plus, il y avait la louange qui accompagnait, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et puis, un petit verset qui est très intéressant, le dernier, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Ce verset est très intéressant parce que, en fin de compte, on ne nous parle pas dans la construction de cette communauté beaucoup d'évangélisation, n'est-ce pas? Le but, c'est d'évangéliser, mais pourtant, dans cette première communauté, on ne nous parle pas d'évangéliser. Il y avait une manière de faire dans la communauté, une certaine atmosphère, mais la seule chose qui nous est dit par rapport à cela, à la croissance, au développement du royaume, c'est que c'est le Seigneur qui ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Donc la force de la première Église et son impact, c'était la vie communautaire véritable. Pas seulement ils avaient en commun les affaires religieuses, mais ils s'aimaient vraiment. Ils savaient partager, ils savaient s'entraider, ils savaient développer des amitiés. Et leur témoignage à eux ajoutait tous les jours ceux qui étaient sauvés. C'était leur manière d'évangéliser. Et je pense même que je suis convaincu que c'est la meilleure manière d'annoncer l'Évangile. Une histoire de communauté. Jamais l'individualisme chrétien ne gagnera le monde. Jamais. Vous saisissez là où je veux en venir? Combien la communauté est importante? Combien la manière de vivre dans la communauté, dans l'Église, est essentielle pour l'accroissement du royaume de Dieu? L'apôtre Paul lui-même, d'ailleurs. Si je prends l'exemple de l'apôtre Paul, c'est parce que je pense qu'il n'y a pas eu de plus grand évangéliste que lui. On nous parle de son histoire tout au long du livre des Actes, entre autres. Fondateur, il est l'implanteur, un homme imaginatif, n'est-ce pas? Il était continuellement en train de vivre des méthodes différentes pour évangéliser selon l'endroit où il était, selon le public qu'il avait. Donc les techniques d'évangélisation, il les connaissait. Cependant, dans les écrits qu'il nous a laissés, c'est-à-dire dans les épîtres, eh bien, il exhorte peu les communautés, il exhorte peu les chrétiens à évangéliser à leur tour. Il le fait très peu. Pourquoi? Parce que sa préoccupation, elle n'est pas dans l'évangélisation ni dans les techniques d'évangélisation, mais il sait une chose, c'est que l'évangélisation, ce n'est pas tellement faire quelque chose, c'est d'abord être quelqu'un. D'abord, nous sommes avant de faire. C'est la raison pour laquelle le souci premier de l'apôtre Paul, c'est l'enseignement de l'Église dans la marche en nouveauté de vie. L'enseignement dans la manifestation de l'image de Christ dans chacun, dans chacune des personnes, dans chacun des membres de cette communauté. Puis autre chose encore qui est étonnante, c'est la vie d'intercession de l'apôtre Paul. Une seule fois, il mentionne une prière d'intercession pour les incroyants. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Pourtant, Paul était un homme de prière. Mais partout ailleurs, nous voyons que l'intercession de Paul est pour ses enfants spirituels. Il prie afin que Christ habite dans leur cœur. Il prie pour qu'il soit formé en eux, Jésus. Il prie pour qu'il ne cesse de croître vers la maturité. Il prie pour qu'il soit puissamment fortifié par l'Esprit. Il prie pour qu'il soit rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà pourquoi, voilà l'orientation dans laquelle l'apôtre Paul prie, le plus grand évangéliste que le monde ait connu. Si l'objectif final, bien-aimé, c'est l'évangélisation du monde, écoutez bien, le chemin à emprunter pour gagner le monde, c'est le développement de la bonne santé de l'Église. C'est le développement de la bonne santé de l'Église, j'insiste. C'est le chemin qui est presque obligé pour une évangélisation et pour une croissance qui est efficace. Vous savez, souvent j'entends et j'ai entendu, je ne l'entends plus depuis un certain temps, peut-être parce que je ne voyage plus assez, des frères, des sœurs, des communautés parler d'efforts d'évangélisation. Nous allons faire un effort d'évangélisation. C'est une expression que vous avez déjà entendue, en tout cas moi que j'ai entendue souvent. Un effort d'évangélisation, c'est vrai que ça demande du travail, ça demande de la constance. Cependant, la parole de Dieu nous montre qu'une église qui est saine et qui est en bonne santé et qui est constituée de membres qui sont heureux d'appartenir à Christ, inévitablement, ils vont évangéliser. Pourquoi est-ce que vous pensez que souvent, la plupart du temps, ce sont les jeunes croyants qui amènent des nouveaux dans la communauté? Vous avez remarqué peut-être. Un jeune croyant se convertit et puis très vite, très peu de temps après, il y a quelqu'un d'autre de son environnement qui l'accompagne et qui vient à l'église. Pourquoi ? Parce qu'il y a une joie en lui. Il se sent comblé par Dieu. Il a découvert Dieu, il a découvert quelque chose d'extraordinaire et il a envie de le partager. Mais est-ce que ce ne devrait pas être le cas de chacun des chrétiens dans une communauté ? Avons-nous la joie, le privilège d'amener des nouvelles personnes dans la communauté, comme les nouveaux le feraient si facilement. Pourtant, Jésus a bien dit, c'est au travers de la vie que nous avons les uns les autres au sein de la communauté que le monde connaîtra, que le monde saura. Jean 13, à ceux-ci tous connaîtront. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Afin que tous soient un, comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Manifestons l'amour les uns les autres et les gens verront. Manifestons l'unité comme il y a l'unité au sein du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Manifestons-la dans la communauté et les gens verront que nous sommes véritablement les disciples de Jésus. Mais la vie communautaire est indispensable. Alors c'est quoi une église en bonne santé ? C'est là où j'aimerais, si vous voulez bien, rebondir sur le premier point que nous avons signalé. pour les envoyer annoncer l'évangile, c'est l'objectif commun, mais il y a l'autre point, d'abord, pour les avoir constamment avec lui. Jésus a jugé bon, pendant ces 3 ans et demi, d'avoir continuellement les disciples dans sa présence. Alors, au travers de cela, je pense que l'on peut définir ce qu'est une église en bonne santé. Vous savez, pour les avoir avec lui, l'original dit simplement pour qu'il soit avec. Pour qu'il soit avec. Parfois l'expression que les petits adolescents utilisent. Là. Moi, je suis avec, je sors avec. C'est vraiment la même expression. Ils sont avec. Il voulait simplement. Jésus les prend pour qu'ils soient avec lui. En quelque sorte, pour vivre quelque chose ensemble, pour vivre une unité, pour former une communauté. Retenez bien ce terme communauté. Une communauté, c'est un groupe de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques. Vous êtes une communauté. Et dans ce mot communauté, il y a le mot commun, n'est-ce pas ? Commun. Et c'est ce mot aussi commun que l'on retrouve dans ces autres termes que sont la communion ou encore la communication. Communion et communication au départ signifiaient la même chose. On utilisait l'un pour l'autre, en quelque sorte. Mais c'est vrai que le mot communion est devenu beaucoup plus précis et s'attache davantage à une relation intime avec quelqu'un. Entre autres, lorsque nous parlons de communion fraternelle, nous savons bien de quoi il s'agit. Par contre, le mot communication, et la racine est sensiblement la même, ce mot a évolué. Parce que le mot communication signifie non seulement la communion, le plaisir d'être avec quelqu'un et de s'unir avec quelqu'un, mais cela signifie aussi la transmission. Donc ce mot communication a évolué pour aussi intégrer non seulement la communion, mais aussi la transmission, c'est-à-dire le partage. Transmission, partage. Donc la communication, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la communion plus la transmission, le partage. D'ailleurs, l'apôtre Paul, quand on voit le terme communiquer, il dira par exemple aux Romains, je suis venu, je désire venir vous voir afin de vous communiquer un don particulier. Communication de quelque chose. Mais ce même mot sera utilisé pour parler de l'argent, par exemple. Donner l'offrande, c'est le même terme. C'est partager, c'est communiquer, en quelque sorte. Donc on voit qu'il y a dans ce terme-là, véritablement, ce que l'on peut regrouper autour. La communion et le partage. C'est ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans et demi. Pour les avoir constamment avec lui, afin de vivre cette communion et de leur transmettre, de leur partager tout ce qu'ils devaient apprendre, afin de pouvoir atteindre l'objectif. D'ailleurs, ce mot, vous connaissez par exemple là, comment on appelle ça, c'est l'excommunication, voilà. C'est un terme qui était utilisé aussi dans la période de la première Église, l'excommunication. Donc c'est ôter quelqu'un de la communion de l'Église. Quelqu'un qui a péché peut être excommunié. C'est ce que l'on vivait au départ dans l'Église catholique, entre autres. Donc une Église qui est en bonne santé, c'est une Église qui sait communiquer, dans la pleine acception de son terme. C'est-à-dire qui sait communier, s'unir ensemble, et qui sait transmettre quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire partager. Mais partager l'information, c'est partager le message, c'est partager les dons, c'est partager l'argent. Alors, je pense que les 10 minutes qui me restent ne suffiront pas pour vous parler de l'Église en bonne santé. Mais il y a peut-être certains points que l'on pourrait mettre en évidence et qui pourraient nous aider les uns les autres. Alors, que peut contenir cette expression « pour les avoir avec lui. Alors j'ai noté quelques points que je vais simplement survoler et citer, si vous voulez bien, parce que ce serait trop long à expliquer. Mais l'atmosphère que Jésus créait était une atmosphère de quiétude, de calme. La simplicité même. On était relax dans la présence de Jésus. Amen. Une église en bonne santé, c'est une église où l'on se sent bien, où l'on est en repos. C'est la raison pour laquelle nous sommes comme des moutons, nous sommes considérés comme des brebis, n'est-ce pas? Parce que les brebis, elles ont besoin de beaucoup se reposer, dans beaucoup les brebis. Elles ont besoin de calme. Jésus était un excellent pasteur. Il savait s'occuper de ses brebis, il savait mettre une atmosphère paisible. Comment nous sentons-nous dans l'Église? Comment est-ce qu'on se sent dans l'Église? Est-ce qu'on est au repos? Est-ce que quand on sort, ça m'a fait du bien? Pour les avoir avec lui signifie aussi vivre une grande proximité, être proche et être en communion. Considérez que 3 ans et demi, c'est long, hein, et pourtant ils ont abandonné pratiquement leur vie, leur famille, leur travail, pour vivre la majorité de leur temps dans la proximité de Jésus. Ils étaient proches les uns des autres. Même ses disciples étaient proches les uns des autres. Pensons bien que le terme « proche » a donné le prochain. On ne peut pas être proche sans aimer. On aime le prochain. D'ailleurs, Jésus a dit d'aimer son prochain comme soi-même. Et le prochain, c'est qui? Bien, c'est celui qui est proche. C'est celui qui est tous les jours, ou bien tous les dimanches, ou en régulièrement à côté de vous. Les avoir avec lui, c'est aussi vivre l'unité du groupe. Jésus construisait l'unité. Au départ, elle n'était pas acquise, mais il l'a construite. L'apôtre Paul dira « Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » L'unité n'est pas la conformité. Écoutez bien, faites bien la nuance entre les deux. La conformité dont le symbole est la tour de Babel, que l'on trouve d'ailleurs dans le livre de la Genèse. Mais toujours aujourd'hui, la conformité symbolise ce monde actuel, aujourd'hui présent, qui nous oblige à porter l'uniforme de la pensée commune. Pensez bien qu'aujourd'hui, de plus en plus, on nous oblige à penser d'une certaine manière. Ce n'est pas ça l'unité. C'est ce que le monde envisage, l'unité mondiale. Non, ça c'est l'uniformité mondiale. Mais l'unité, c'est un même cœur, une même pensée. L'unité signifie que je t'accepte comme tu es et je te respecte, même si tu es différent de moi, et même si tu ne penses pas comme moi, et même si tu n'as pas la même doctrine que moi, je t'accepte. Et c'est ainsi que nous pouvons vivre l'unité. Les avoir avec lui, c'est aussi vivre l'interactivité, les uns les autres. On a partagé ça, nous, dans la communauté, il n'y a pas longtemps. On a découvert qu'il y avait 58 les uns les autres dans les épîtres de Paul. Vous en connaissez quelques-uns des uns des autres? Vous pouvez citer quelques-uns? Exhortez-vous les uns les autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Quelqu'un d'autre? Quoi? Aimez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Alléluia! Merci ma sœur. J'attendais celle-là. Saluez-vous les uns les autres. Bon, voilà, je pense qu'il y en a. Portez les fardeaux les uns des autres. On peut faire une liste longue et puis commencer à les étudier. On verra combien l'interaction au sein du petit groupe des 12 était importante. Pour les avoir avec lui, c'est aussi se constituer une équipe de serviteurs qui vont ressembler au maître. Jean chapitre 13. Jésus s'abaisse et lève et lave les pieds de ses disciples. Voilà comment vous devez vous servir les uns les autres. c'est par l'exemple. Et Jésus donne cet exemple en tant que leader. Une équipe de serviteurs à l'image du Maître. Pour les avoir avec lui, c'est aussi partager les dons et les talents mutuels. Vous avez tous reçu des dons et des talents mutuels. Des dons et des talents. Mais mettez-les en évidence. Exprimez-les les uns pour les autres. Ouvrez l'espace pour que vous puissiez exprimer ce que le Seigneur a déposé en vous. Ne laissez pas moisir tout cela en vous. Exprimez-le. Enrichissez le corps du Christ. Jésus l'a fait d'ailleurs. Il a même utilisé Judas comme trésorier. Vous voyez ? Il utilisera Pierre. Pierre qui sera pendant un temps, c'est vrai, le leader. Mais Jésus donne à chacun de ses disciples aussi une fonction précise, en fonction de leurs dons, de leurs talents. Les avoir avec lui, c'est aussi se soumettre à l'autorité que Dieu place dans la communauté. C'est aussi se soumettre à l'autorité suprême du Christ, mais c'est aussi apprendre à se soumettre les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres. Cela s'apprend. Les disciples ont dû apprendre à se soumettre les uns aux autres. Et ce n'était pas évident. Parce que combien de fois la jalousie n'a pas germé, n'a pas... Ouh là là, parfois on peut lire au travers des écrits la manière terrible dont certains disciples étaient jaloux des autres. Ils se jalousaient les uns les autres. Ils devaient apprendre à se respecter et à vivre humblement les uns avec les autres. Une équipe gagnante, c'est aussi une équipe qui sait communiquer de manière libre et de manière édifiante. Apprendre à communiquer. Et là, c'est apprendre à transmettre, à partager. J'ai noté quelques titres. Être prêt à exprimer ses opinions librement, même si elles diffèrent de celles des autres. On est libre d'exprimer les choses, même si on n'est pas du même avis que l'autre. Pas de crainte de dire une bêtise ou de se tromper. On peut permettre à tout le monde de participer à la discussion. La communication, c'est d'abord bien apprendre à écouter l'autre, s'écouter les uns les autres. Dans une bonne équipe, les suggestions critiques sont faites sans attaque personnelle. Les membres sont libres d'exprimer aussi leurs sentiments, leurs vécus, leurs émotions. Pas seulement des idées, mais aussi ce qu'on peut ressentir. Pour les avoir avec lui, c'est être à découvert, être nu devant l'autre. Voilà quelques points qui me semblent être intéressant à développer. Oh, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il y aurait tellement d'autres choses encore à dire par rapport à la vie d'une église en bonne santé, au devenir de cette communauté en bonne santé. Mais au travers déjà des évangiles et de la manière dont Jésus s'y est pris, nous pouvons beaucoup apprendre de lui. Et je termine, si vous voulez bien, en mettant l'apothéose sur le ministère de Jésus. Je pense que l'idéal... Jésus l'a vécu et nous l'a communiqué. Lorsque, à partir d'une relation de serviteur au départ, après 3 ans et demi, il a fait de ses serviteurs des... Jean 15, il dira « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Une communauté en bonne santé, est faite et constituée d'amis, des gens qui s'aiment. Bien-aimés, apprenons à nous aimer les uns les autres. Et l'amour n'est pas simplement le fait de se donner un bisou, mais l'amour est quelque chose qui s'apprend. On apprend à aimer. Ce n'est pas évident. Surtout que nous devons apprendre à aimer des personnes que nous n'avons pas choisies. Mais si Dieu les a imposées, nous les a imposées, c'est parce que Dieu veut se glorifier au travers de l'amour que nous allons partager les uns envers les autres. Je conclus. Ces deux éléments sont essentiels pour la construction d'une équipe gagnante. atteindre, viser et atteindre l'objectif, un objectif commun, et développer une bonne communication, une juste communication, la communion et la transmission ou le partage. Et ces deux éléments doivent être présents. On ne peut pas être une église qui travaille dans un objectif bien précis et qui évangélise à outrance si elle ne sait pas communiquer. Et de la même manière, si on ne fait que communiquer mais qu'on n'a pas d'objectif commun, on n'est pas une équipe non plus. L'équipe doit être constituée de ces deux éléments absolument indispensables. Henry Ford, l'industriel et fondateur des voitures Ford, a dit « Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Voilà, je vous souhaite de travailler ensemble, peut-être de revoir certains de ces thèmes qui ont été abordés ce matin, afin que vous puissiez constituer cette équipe qui réussira, qui portera du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. On va s'incliner un instant, vous voulez bien, pour terminer ce moment. Seigneur, qui est suffisant pour ces choses ? Seigneur, c'est avec modestie, avec humilité, Seigneur, que nous tournons devant toi en considérant combien la charge, la tâche est compliquée et difficile. Mais Seigneur, tu as parié sur nous.